Naash l'Ammonite dressa son camp contre Yabesh de Galaad. Tous les hommes de Yabesh dirent à Naash : conclue une alliance pour nous et nous te serons soumis. Mais Naash l'Ammonite leur répondit : je la conclurai pour vous à cette condition. Je vous crèverai tous l'œil droit et j'infligerai ainsi un déshonneur à tout Israël. Les anciens de Yabesh lui dirent : accorde-nous une trêve de 7 jours, le temps que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Si personne ne peut nous sauver, nous nous rendrons à toi. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et rapportèrent ces paroles au peuple. Tout le peuple se mit à sangloter. Or, Saül arrivait des champs derrière ses bœufs. Saül dit : qu'a donc le peuple à pleurer ? On lui rapporta les paroles des gens de Yabesh. Le souffle de Dieu s'empara de Saül quand il entendit ces paroles. Il se mit dans une grande colère. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par l'intermédiaire des messagers dans tout le territoire d'Israël en disant : quiconque ne se mettra pas en campagne derrière Saül et Samuel, ses bœufs seront traités de la même manière. La frayeur du Seigneur s'abattit sur le peuple qui se mit en campagne comme un seul homme. Saül les passa en revue à Bézek. Les Israélites étaient 300 000 et les hommes de Juda étaient 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus : vous direz ceci à la population de Yabesh de Galaad. Demain, vous aurez la victoire quand le soleil commencera à chauffer. Les messagers vinrent annoncer cette nouvelle aux hommes de Yabesh qui s'en réjouirent. Les hommes de Yabesh dirent aux Ammonites : demain, nous nous rendrons à vous et vous nous traiterez comme il vous plaira. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 bandes. Ils pénétrèrent à l'intérieur du camp pendant la veille du matin et ils battirent Ammon jusqu'à la chaleur du jour. Quant aux survivants, ils se dispersèrent, il n'en resta pas 2 ensemble. Le peuple dit à Samuel : qui est-ce qui disait : est-ce Saül qui sera notre roi ? Livrez ces hommes et nous les mettrons à mort. Mais Saül dit : on ne mettra personne à mort en ce jour, car aujourd'hui le Seigneur a réalisé une victoire en Israël. Samuel dit au peuple : venez, rendons-nous au Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit au Gilgal. Là, ils investirent Saül de la royauté devant le Seigneur au Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices de paix devant le Seigneur. Là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances.
Quand on est tête d'affiche, on sent la pression monter. Ces dernières semaines, on a parlé pas mal du PSG dans les médias. Ils sont sous tous les projecteurs, parce qu'on s'attend à des grands résultats. Et après quelques matchs difficiles contre des équipes moins bien classées, la question récurrente qui vient sur le tapis, c'est : est-ce qu'ils sont taillés pour jouer dans la cour des grands ? Et ensuite suivent les déclarations de Leonardo, le directeur technique, à la suite d'une défaite contre Reims. À chaud, il affirme que le PSG est plutôt fait pour l'Europe et pas tant pour la Ligue 1. Et là, ça provoque toutes sortes de réactions en Ligue 1. Les gens veulent savoir pourquoi il peut dire une chose pareille. Et donc, la pression, elle semble encore plus forte maintenant parce que tout le monde observe et veut savoir si cette équipe est vraiment en mesure de jouer dans la cour des grands. On se souvient que la demande d'un roi, elle est venue du peuple. Un peuple qui voulait être comme les autres peuples, comme les autres nations, en demandant un roi qui pourrait mener leur guerre et protéger la nation. Et on se souvient aussi que cette demande, c'était en fait un rejet de la royauté de Dieu, celle que lui exerçait sur la nation. Et dimanche dernier, Matthieu a relevé, dans le chapitre 10, comment il y a une double désignation, mais aussi une double contestation de ce règne. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils se réjouissent de ce qu'un roi a été nommé, puisqu'il l'avait demandé. Mais on verra ce soir, comme on l'a vu, qu'il y a une sorte de doute quant à sa capacité à régner. Est-ce qu'il est vraiment à la hauteur du travail, du job ? Est-ce qu'il est fait pour la royauté ? À 2 reprises, quand on nous le présente, on nous dit qu'il est de grande taille, qu'il dépassait tout le monde d'une tête. Alors c'est très bien quand on cherche une place dans une équipe de basket ou quelque chose du genre, mais est-ce que ça fait de lui un bon roi, quelqu'un qui va pouvoir régner ? Sur quelle base est-ce qu'il peut envisager d'être roi ? Est-ce qu'il va pouvoir faire la différence dans les moments difficiles ? Est-ce que c'est vraiment un libérateur ? On se souvient des paroles à la fin du chapitre 10 de certains : « Quoi ? C'est celui-ci qui nous sauvera ? » Et cette expression, c'est comme si on en trouve les échos tout au long du chapitre. À trois reprises, on trouve ce terme « sauvé », un peu un mot-clé récurrent dans le chapitre. Et le plan est le suivant. Sous la menace d'une humiliation, versets 1 à 4, sous l'emprise de l'esprit et sous le règne d'un roi reconnu. Sous la menace d'une humiliation d'abord. Le début du chapitre nous plonge tout de suite dans le contexte d'une menace. Un certain Naash, roi des Ammonites, fait une intrusion en Israël, dresse son camp aux abords de la ville de Yabesh, dans le territoire de Galaad. Et face à la menace, les habitants de Yabesh répondent, ou Jabès sur la carte, proposent un traité. Ce traité, c'est en fait l'équivalent d'une soumission. Ils sont prêts à rentrer dans la position d'un vassal vis-à-vis d'un suzerain, de reconnaître Naash comme leur roi et se placer sous son règne. Et alors que Saül vient d'être élu roi d'Israël, de la nation, par toute la nation, on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'il n'est même pas mentionné? Pourquoi est-ce que la possibilité d'une contestation de la part de Saül n'est même pas mentionnée? Ça, c'est une question à se poser. Après tout, il était dit d'un roi que ça devait être quelqu'un qui conduira, au chapitre 8, verset 20, qui conduira nos armées, qui mènera nos guerres. Mais ici, aucune mention de Saül dans cette proposition de traité. Maintenant, en se plaçant dans la peau des habitants d'Yabesh, c'est difficile de faire plus. En gros, ils sont prêts à se soumettre à ce roi ammonite, Naash, et à ses volontés. Mais la réponse à sa proposition, elle a dû avoir l'effet d'un choc. Je la conclurai pour vous à cette condition. Je vous crèverai à tous l'œil droit et j'infligerai ainsi un déshonneur à tout Israël. Comment comprendre ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait là? Un premier élément de réponse qu'on peut donner certainement, c'est qu'il veut faire une armée de vétérans. Alors c'est vrai qu'on attend encore la confirmation de la mort de Mokhtar Belmokhtar, surnommé le Borgne. C'est donc qu'il y a des gens qui arrivent à se battre avec un œil. Mais est-ce qu'il est possible d'avoir toute une armée de Borgnes qui se bat? C'est probablement un handicap qu'il veut imposer à tout le monde et éviter la possibilité d'une révolte. Mais il y a probablement plus, et on l'entend dans ses paroles, « J'infligerai ainsi un déshonneur à tout Israël. » Il ne veut pas simplement remporter une victoire, il veut les humilier, il veut les déshonorer. Eux, mais aussi la nation entière. Pour signer l'armistice à la fin de la Première Guerre mondiale, et une armistice qui a représenté une humiliation pour l'Allemagne dans la manière de la présenter. Les Alliés ont choisi un wagon, c'est l'image du bas, et c'est dans ce wagon qu'a été signé cet armistice. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la France, cette fois-ci, doit signer l'armistice, Hitler demande à ce qu'on place le même wagon au même endroit. Et ça, ce n'est pas un hasard, c'est tout simplement parce qu'il voulait avoir une revanche sur ce qu'ils considèrent justement comme une humiliation. Entre les Israélites et les Ammonites, on trouve un conflit qui a probablement laissé des traces. On en trouve les signes dans le livre des Juges. Là, les Ammonites se plaignent de crimes que les Israélites ont commis dans le passé. Et là, c'est un certain Jephté, devinez de quelle tribu, de Galaad, qui remporte une victoire contre eux. Et des années plus tard, on se retrouve ici, dans la tribu de Galaad, avec les Ammonites comme ennemis. Dans ce désir d'humilier, Naash veut faire durer le plaisir, un peu comme un étau qu'on serre petit à petit, un peu comme un chat qui joue avec une souris avant de la manger. Même si ça peut surprendre, c'est probablement pour cette raison qu'il accepte une demande qui paraît absurde, hein. Les anciennes d'Abesh demandent une trêve de 7 jours pour envoyer des messagers dans tout le territoire d'Israël pour demander de l'aide, si quelqu'un peut venir à leur secours, les sauver. Et Naash accepte. Autrement dit, pour lui, c'est comme si, avec de l'aide ou pas, ça sera le même sort final. C'est déjà scellé. N'est-ce pas déjà une première humiliation? Vous pouvez aller chercher qui vous voulez. Et les messagers s'en vont, dans une sorte de recherche désespérée pour trouver de l'aide. Et à un moment donné, ils arrivent à Gibéa et ils rapportent les paroles de Naash au peuple. Et remarquez que les messagers ne sont pas à la recherche de Saül. Où est-ce qu'il est ? Ils ne sont pas en train de le chercher. Ils le donnent. Ils donnent cette nouvelle aux habitants présents qui se mettent à pleurer. Autrement dit, ils sont désespérés. Et c'est Saül qui doit demander qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que les gens sont en train de pleurer ? Est-ce qu'on lui fait confiance ? Est-ce que c'est vers lui qu'on se tourne quand les choses vont mal ? Même dans sa propre ville, on n'a pas le sentiment que c'est le sauveur désigné. Alors qu'est-ce qui va leur permettre d'espérer ? Sous l'emprise de l'esprit. Lorsqu'on rencontre, et si vous prenez le verset 5, Saül, d'où est-ce qu'il vient ? Alors je vous propose un test à choix multiple. A, il sort de son quartier général, il vient de discuter avec ses meilleurs conseillers. B, il revient d'une séance de tir à l'arc et il a battu son record. Réponse C, il revient de manœuvre en campagne d'exercice avec son armée. Quelle est la bonne réponse ? B, la boucherie ? Non, aucune. Aucune. Non. Oui, c'est la réponse D. Saül revient des champs derrière ses bœufs. Derrière ses bœufs. Est-ce qu'il n'avait pas été élu roi devant toute la nation au chapitre 10 ? Est-ce que Samuel, au chapitre 8, n'avait pas donné la liste de tous les droits d'un roi ? On l'avait rencontré alors qu'il était à la recherche des ânes perdus. Et là, il est derrière les bœufs. Autant dire que la promotion, elle n'est pas évidente. Et pourtant, il y a un changement de taille qui est sur le point de se produire. Le salut que Dieu veut pour son peuple est sur le point d'être dévoilé. Et l'expression qui marque le changement, c'est que le souffle ou l'esprit de Dieu s'empare de Saül quand il entend ce qui se passe. La même expression qu'on trouve pour Samson dans le livre des Juges à plusieurs reprises. Et il y a d'autres échos du livre des Juges dans ce qu'on lit. Il se met en colère, il coupe une paire de bœufs en morceaux. Il est vraiment en colère, qu'il fait envoyer par ces mêmes messagers dans tout le territoire d'Israël. Et le livre des Juges, qui est caractérisé par un déclin sur tous les plans moral, spirituel, on lit que dans une des heures les plus noires de son histoire, une femme a été victime d'une agression sexuelle et elle meurt à la suite de cette agression. Et suite à ce qui s'est passé, son mari va découper sa femme et envoyer des morceaux, 12 morceaux, dans les 12 tribus d'Israël. Mais devinez dans quelle ville tout ça a eu lieu ? Dans quelle ville ? La ville de Gibéa, la ville d'où vient Saül. L'ensemble de la nation va s'indigner contre ce qui s'est passé. Et parce que les habitants de Gibéa refusent de livrer les coupables, c'est une guerre civile qui va arriver. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce parallèle ? De tous les endroits où on aurait pu attendre un salut, quelque chose de bien, on ne se serait pas tourné vers Gibéa. On ne se serait pas tourné vers une ville pareille. C'est encore frais dans les esprits. Et pourtant, l'indignation vient de la ville de laquelle on s'était indigné quelques années plus tôt. Et tout le monde, tout le peuple accepte de suivre Saül. Ils sont derrière lui comme un seul homme. Là encore, une expression qu'on retrouve dans les Juges. Et à qui vont-ils venir en secours ? Là encore, le parallèle y est intéressant. Dans les Juges, la ville de Yabesh, c'était la ville qui était devenue, à la fin du livre des Juges, la cible de toute l'hostilité d'Israël, parce qu'elle n'avait pas envoyé de personnes au combat. Il y a un changement radical qui est en train de s'opérer. La ville dont on s'était indigné s'indigne et fait venir le secours dans une ville qui n'apportait aucun secours elle-même. Les messagers reviennent et c'est la joie dans Yabesh. On imagine le réconfort d'une telle nouvelle. Moi, ça m'a fait penser à, je ne sais pas si vous vous souvenez, les deux tours, le gouffre d'Helm, quand Gandalf, quelques jours avant cette bataille, annonce « Demain, il dit « Regardez à ma venue, à la première lueur du cinquième jour, à l'aube, regardez à l'est. » Vous vous souvenez peut-être de cette bataille. C'est comme un souffle de... On respire à nouveau. Il y a l'espoir d'une victoire. Et quand on revient dans notre texte, au terme de la trêve, dans la manière de s'adresser à Naash, on voit une certaine ambiguïté dans la manière de présenter les choses. Il est dit « Demain, nous nous rendrons à vous et vous nous traiterez comme il vous plaira. » Mais littéralement, ça signifie « Demain, nous sortirons vers vous. » En étant prêts à soumettre ou alors en étant prêts à se battre. Ils vont effectivement sortir vers eux, mais ce sera une surprise dans le déroulement. L'humiliation, elle ne va pas avoir lieu. Cette victoire de Naash, elle n'aura pas lieu. Et Saül se présente comme un stratège. Il divise les troupes en trois. Là encore, ça rappelle les juges avec Gédéon. Et quand au moment, c'est 2h du matin, très tôt pour l'effet surprise, et c'est effectivement la victoire qui attend Israël sur ses ammonites. Victoire que Saül avait annoncée. Contraste à la fin de cette bataille entre Israël qui était comme un seul homme et les ammonites qui nous a dit il n'en resta pas deux ensemble, ils sont complètement dispersés. Comment expliquer un tel salut? Comment expliquer un tel salut? Le salut viendrait d'un homme dont la fin du chapitre nous dit qu'on n'attendait pas le salut. Le salut viendrait de cet homme que tout le monde a de la peine à reconnaître comme roi. Le salut viendrait d'une ville, de sa ville, connue pour les pires heures d'Israël. Le salut viendrait en faveur d'une ville qui, 10 années plus tôt, faisait face à l'hostilité de toutes les tribus. Le salut viendrait face à une armée qui s'est montrée pourtant si sûre d'elle. Comment comprendre un changement aussi radical? Il faut souligner que ces changements sont dus à l'intervention de l'Esprit de Dieu. C'est ce qui marque le tournant. Un exégète relève ce qu'on appelle un chiasme que je trouve assez probant. Et on voit au centre de ce texte, au centre de ce qui se passe, l'Esprit de Dieu qui s'empare de Saül. Et après tout ce qu'on a vu, est-ce qu'on en conclurait que le salut est venu parce qu'Israël a obtenu un roi? Le salut est venu parce qu'ils ont institué finalement la monarchie? Non. C'est parce que ce roi est animé par l'Esprit de Dieu, sous son emprise. Ce n'est pas ce roi lui-même, en lui-même, qui est capable. C'est parce que le roi est revêtu de son esprit. Et on arrive à la dernière partie, sous le règne du roi reconnu. Face à l'évidence de cette victoire dont Saül a été l'instrument, le peuple revient vers sur ce qui avait été dit plus tôt à la fin du chapitre 10, verset 12, on lit « Le peuple dit à Samuel, qui est-ce qui disait, est-ce que Saül sera notre roi? Livrez ces hommes et nous les mettrons à mort. » Il demande en fait une vengeance, que Saül puisse se venger de ceux qui ont douté de lui. Mais ça semble ironique un peu dans un sens, parce que qui croyait en lui vraiment? Même dans sa ville, on n'allait pas vers lui pour lui apporter la nouvelle. C'est lui qui a dû demander ce qui se passait. Et ici, on peut souligner la bonne attitude de Saül. On ne mettra personne à mort en ce jour, car aujourd'hui, le Seigneur a réalisé une victoire en Israël. Premièrement, il renonce à toute vengeance. Et ensuite, il reconnaît que la victoire, c'est le Seigneur qui l'a remportée. Et suite à ce qui s'est passé, Samuel invite tout le monde à se rendre à Gilgal. Le lieu est mentionné à 4 reprises dans 2 versets. Et pourquoi est-ce que c'est significatif? Eh bien, on le voit dans le livre de Josué. C'est là où Dieu agit contre toute attente. C'est tout un peuple qui va pouvoir traverser le Jourdain. Un mémorial sera construit là, à Gilgal, pour se souvenir, un peu comme une traversée de la mer Rouge, ils ont pu traverser le Jourdain sous l'action souveraine de Dieu. Et dans la foulée, ils célèbrent la Pâque, souvenir justement de cette libération miraculeuse de Dieu, alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Comme s'ils devaient constamment se souvenir des délivrances passées, comme s'ils avaient constamment besoin de renouveler leur confiance en Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce passage? Quand j'étais en train de réfléchir il y a des années à à la possibilité d'une formation en théologie. Je me souviens avoir écrit à un pasteur que j'appréciais beaucoup et que j'admirais pour sa piété. Et dans ma lettre, je lui faisais part d'une certaine tristesse quant à un sentiment de ne pas apporter de fruits dans ma vie. Et je me souviens que dans sa réponse, il avait cité ces paroles qu'on trouve dans Jean 15, et en fait, Wissam les a lues tout à l'heure, au sujet de la dépendance en Jésus. Image d'un cep que Jésus représente et des sarments que nous représentons. En particulier le verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et il insistait sur cette deuxième partie, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Comment est-ce que ça se vit? Alors chacun d'entre nous vit des réalités différentes. Mais jeudi dernier, alors que j'étais sur le point de rentrer pour aller promener les filles, j'ai découvert que j'avais oublié de préparer l'étude et la synthèse pour jeudi soir. Alors certains trouveraient ça tout à fait à leur portée de préparer ça en 2 heures. Mais moi, j'ai généralement besoin de temps pour laisser le texte trotter dans la tête et comprendre les applications. Et c'est là qu'on a envie, je ne sais pas pour vous, mais c'est là qu'on a envie d'entendre dire « Paul, tu dors ?» Comme si c'était un rêve, en fait. Et on se réveille. Ah non, ce n'était pas ça. Mais ce n'était pas un rêve. Il fallait le faire. Et j'étais à mon bureau au Terne et puis il y avait un des collègues, Thomas. Il m'a proposé de l'aide. Et puis la première chose qu'il a demandé, c'est « Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble ?» Alors c'est ce qu'on a fait. Il m'a ensuite suggéré un ouvrage qui m'a été très utile pour le passage en question. Et finalement, ça ne s'est pas trop mal passé. On m'a même dit que je devrais faire ça plus souvent. Alors, vous voyez. Mais par la suite, quand Thomas m'a demandé un peu des retours, je lui ai dit que ça ne s'était pas trop mal passé, que l'ouvrage qu'il m'avait suggéré était utile. Il n'a pas fait grand-chose, il n'a pas fait grand cas de la chose, mais il a simplement dit, et Dieu a répondu à nos prières. C'est marrant comme il est facile d'oublier que sans lui, je ne peux rien faire. Si j'ai les ressources, les bonnes personnes, les bonnes idées, la bonne méthode, mais sans lui, je ne peux rien faire. Est-ce que ce que je dis ici colle avec la manière dont Jésus se présente ou est présenté dans le Nouveau Testament? Prenez la manière dont Luc en parle. Au début de son évangile, Luc relate comment Jésus est oint par le Saint-Esprit. Comment Jésus est rempli d'Esprit Saint et conduit dans le désert par l'Esprit Saint. Et ensuite, comment il exerce son ministère par la puissance de l'Esprit. Et 2 versets plus loin, voici ce qu'il est dit. Il vint à Nazareth où il avait été enlevé et il se rendit à la synagogue selon sa coutume le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est bel et bien lui qui peut marquer la différence. C'est lui qui peut apporter le changement. Alors qu'on ne peut pas l'envisager, alors qu'on ne peut pas l'imaginer, alors que les gens réagissent en disant « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Ailleurs, on se demande si quelque chose peut venir de Nazareth, de Galilée, un prophète. Mais le changement est bel et bien venu de lui. Un changement radical, profond, parce qu'il est revêtu de l'Esprit. Et à la croix, et par la résurrection, il va apporter ses causes de changement profond. Et comme le peuple, chacun d'entre nous, dans son métier ou dans ses études, on aura tendance à l'oublier. On aura tendance à oublier que sans lui, on ne peut rien faire. Comme le peuple, on aura besoin de le redécouvrir encore et encore et encore. Mais là encore, c'est le témoignage constant que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer pour le salut que tu as opéré de manière récurrente dans l'histoire et souverainement, Jésus. C'est vers lui, Père, que nos regards se tournent. C'est dans la confiance en lui que nous voulons avancer, que nous voulons vivre, attachés à lui, vivant de sa sève, nourris par lui. Accorde-nous chacun, Père, dans les jours qui viennent, à vivre de cette dépendance. Nous te le prions en son nom. Amen.